Bienvenue dans cette émission du 5 juin 2023 où nous allons continuer à évoquer l'affaire Raoul qui a connu de nouveaux rebondissements. On se souvient comment le ministre de la Santé a menacé les auteurs de l'étude en plein débat à l'Assemblée nationale, comme si le politique devait dicter leur conduite à des scientifiques. Et puis un des signataires, le professeur Lagier, qui a été menacé par sa direction, a demandé à pouvoir se retirer pour ne pas subir les mêmes conséquences que Amin Umlil, qui a été révoqué, que René Chiche, qui a été suspendu. On voit toute cette violence institutionnelle. Et donc, le professeur Raoult a décidé, avec les autres auteurs, de renoncer à la publication du préprint, en soulignant le côté complètement anormal et même, à vrai dire, aberrant d'une telle décision. Et donc, à chaque fois que le pouvoir politique se targue de dicter leur conduite aux scientifiques, eh bien déjà, on a la puce à l'oreille qu'on est dans une dérive totalitaire. Et en ce qui nous concerne, ça n'est plus qu'une énième confirmation de cette triste réalité. Didier Raoult persiste et signe en disant « Les seuls cobayes sont ceux qui ont été les vaccinés par un essai illégal du fait de l'absence de consentement sans contrainte. Le consentement sans contrainte était impossible étant donné les conditions administratives, légales et politiques générées par le gouvernement français. Et donc les soignés de par l'IHU n'ont pas été des cobayes mais des chanceux. » Didier Raoult ajoute « Je n'ai pas peur, la vérité circule et circulera, comptez sur moi. » Alors on voit effectivement cette campagne de presse qui continue de manière toujours aussi virulente, hein, et Patrice Giberti, dont vraiment il vaut la peine de suivre le blog, qui est historien, qui fait un travail remarquable autour des crises en cours, lui commente « La presse de caniveau lance la chasse au Raoult, ils invitent de faux médecins, publient des unes honteuses, étouffent les vrais scandales, mais qui osera en finir avec les subventions publiques pour ces merdias ?» Moi-même, je tiens à m'abstenir en général de ce genre de termes, mais à ce stade, je ne sais pas si cela est encore possible. Et donc, notamment la presse de Bernard Arnault, comme vous voyez aujourd'hui dimanche, et Le Parisien, titre carrément « Comment arrêter Didier Raoult ?». Alors, faisons un petit arrêt sur image pour rappeler la gravité de la dérive psychopathologique dans laquelle nous sommes. J'ai déjà cité cet exemple, mais je vous en redonne un exemple. Vous voyez, par exemple, un des co-auteurs de l'étude Fiolet, qui a été une escroquerie montée par la corruption systémique et ses agents en France et en Suisse, notamment Yazdan Pana, Nathan Pfeffer-Smadja en France et Caroline Samer à Genève, qui était vraiment une fraude pure et simple, et dont plusieurs des co-auteurs s'attaquent maintenant à l'étude rétrospective de l'IHU Méditerranée Infection. Et donc un des co-auteurs de l'étude frauduleuse sur les réseaux sociaux, mais voyez le type de vocabulaire qu'il utilise pour des gens qui contestent, comme Yvan Rioufol, je me permets de citer, il est fini à la pisse avec ses menaces, les trolls de merde, je vous pisse au cul, les préprints finis à la pisse, la recherche mal branlée, l'utilisation idiote de préprints à la con par les médias, ferme ta gueule réverbelle pour une chercheuse de qualité, et puis, écoutez ça, je m'en bats les roustons d'être poli, ok. Ça nous avait un petit peu échappé. Et en ce qui concerne François, vous puez la merde complotiste. Donc on voit qu'on a affaire à des gens, mais qui sont juste en roue libre pour certains d'entre eux, avec ce vocabulaire très scatologique qu'on avait déjà repéré chez Thomas Durand. Mais vous serez d'accord avec moi que quelqu'un qui se comporte comme ça, en temps normal et pour quelqu'un qui a gardé sa raison, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Dont on se dit, il a quand même des sacrés troubles, de l'agressivité, et ça n'est pas comme ça qu'il convient de porter une polémique scientifique, si tant est que ça soit son intérêt. Et vous voyez, le soi-disant prestigieux journal Le Temps en Suisse, mais qui aujourd'hui est un naufrage ambulant, eh ben lui qualifie ce personnage, celui qui vient d'éructer toutes les saillies scatologiques que je viens de nommer, comme une figure de la science francophone sur Twitter, qui pourfend les pseudo-sciences comme il aime les chats, avec tout son cœur. Donc, de nouveau, si on ne mesure pas que nous sommes actuellement en plein délire, et je vous renvoie une fois de plus aux travaux remarquables d'Ariane Biran, qui est normalienne, philosophe spécialiste en philosophie morale et politique, docteur en psychopathologie, grande spécialiste de la paranoïa et des dérives totalitaires. Hein, si on n'a pas cette clé de lecture, eh ben effectivement, on ne peut juste pas appréhender à sa juste mesure ce dont il s'agit. Et j'indique également la référence d'émissions, d'entretiens que j'ai publiées avec Ariane Biran. Et vraiment, prenez la peine de comprendre à quoi nous avons affaire. Sur le fond, vous voyez, Jacques Henry, qui était chercheur au CNRS en biologie, lui, il explique comment le gouvernement a organisé le meurtre d'un maximum de personnes pour favoriser les injections et surtout les conséquences à venir pour eux. Tous les dossiers médicaux et les études réalisées au cours de l'épidémie par l'équipe de l'IHU de Marseille ont été analysés par une équipe d'huissiers assermentés. Aucune fraude n'a été détectée et le rapport est plus que satisfaisant. Ce type de précaution est inhabituel, souligne-t-il, mais rend cette publication inattaquable. Et ça, on comprend effectivement que Didier Raoult a fort bien joué sa partition sur le plan tactique et stratégique. Et donc, maintenant, l'enjeu est de démontrer la fraude des autorités politiques françaises pour appuyer la commercialisation des pseudo-vaccins dont l'agrément temporaire de mise sur le marché dépendait d'absence de traitement pour combattre le virus. La publication en question de l'IHU prouve clairement le contraire et donc tout ceci va se terminer tôt ou tard à la case prison sans remise de peine, mais on comprend que ça balise sacrément dans le camp d'en face et d'ailleurs avec des accusations qui sont complètement déplacées. C'est-à-dire que vous observerez que les attaques ne portent pas sur l'étude et ses résultats, mais sur le fait qu'elle aurait constitué un essai clinique sauvage, ce qui est juste indéfendable pour quiconque connaît la recherche. Mais nous ne sommes plus dans un contexte de raison et d'argument, nous sommes dans un contexte de délire raisonnant. Savoir aussi qu'il y a un très large soutien à Didier Raoult. J'ai moi-même signé, bien sûr, la tribune que Bon Sens a mis sur pied à cet effet. Plus de 350 médecins scientifiques et personnalités publiques ont déjà signé et les signatures n'arrêtent de déferler. Donc faire croire qu'il est isolé et qu'il est seul à croire dans le résultat de ses études est vraiment une truanderie intellectuelle de la pire espèce, c'est totalement faux. Et si vous consultez la liste des signataires, vous verrez qu'on a un niveau académique, scientifique et intellectuel autrement plus important que ceux des signataires de la tribune qui l'ont attaqué. Maintenant, si on se penche sur les signataires de la tribune qui l'ont attaqué, voyez, on observe qu'il y a plus de 18,5 millions d'euros qui ont été versés par les labos pour ces signataires. Et là, je parle que de uniquement de ce qui est connu. On sait par ailleurs que dans ce genre de procédé, en général, il y a des versements qui transitent par des comptes offshore. Et donc, voyez, ce sont vraiment des experts qui sont arrosés, qui sont en allégeance par dépendance économique, on appelle ça des conflits d'intérêts. Le lien d'intérêt, c'est une chose, mais un conflit d'intérêt, c'est quand vous intervenez publiquement ou administrativement dans une cause où votre intéressement fait que vous devriez vous récuser. Et c'est tous ces repères éthiques, bien sûr, qui ont explosé à la faveur de la crise sanitaire. Le fond, évidemment, on le connaît. C'est que si effectivement ce que Raoult affirme et avec des données qui, à ce stade, sont incontestables et confirmées, à ce moment-là, tous ceux qui ont trempé dans une magouille qui a causé des dizaines de milliers de victimes en France et des millions à l'échelle mondiale, évidemment, vont avoir des comptes à rendre et là, leur carrière sera finie. Donc Asim Malhotra, qui est un très grand cardiologue britannique, lui résume ça d'une manière vraiment à l'essentiel. La véritable bataille que nous menons dans le domaine de la santé aujourd'hui est celle de la vérité contre l'argent. C'est ça. Et vous voyez tous les moyens qui sont mis à disposition. Alors Peter McCullough aux États-Unis, qui est un autre cardiologue de réputation mondiale, lui ne cesse d'agir et vraiment avec une vaillance admirable. Et Ellen Madoun souligne qu'aux États-Unis, des sénateurs demandent une enquête pour expliquer l'absence de soins ambulatoires précoces de la Covid. Et en France, les Pinocchio au pouvoir, les polis, font taire les médecins qui ont soigné. Et évidemment que toute la situation est absurdissime. Hein, on est dans cette inversion accusatoire, c'est-à-dire des gens qui ont infligé Une expérimentation génique hyper risquée avec une extorsion de consentement dans le cadre d'un essai thérapeutique illégal sauvage. Je rappelle que les substances en question sont encore en phase expérimentale. Accuse Didier Raoult, qui a soigné les gens, d'avoir fait ce que eux-mêmes ont fait et que lui-même n'a pas fait. Donc on est dans ces emberlificotements qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle l'agnotologie, c'est-à-dire le fait de fabriquer de l'ignorance pour que les gens soient tellement perdus dans ces controverses qu'en quelque sorte, ils renoncent à réfléchir. Mais Grégory Pamart, médecin qui a été longtemps suspendu, lui, de nouveau, va à l'essentiel. Imaginez le nombre de patients qui pourraient plutôt porter plainte pour défaut de soins. Ah, les médecins ont l'obligation de soigner leurs patients. Les cabinets fermés, le refus de recevoir les patients fiévreux ou non vaccinés, les « on ne peut rien faire, aller à l'hôpital », il est là le plus grand scandale sanitaire de l'histoire. Et Robert Kennedy Jr., dont je rappelle qu'il se présente à l'élection présidentielle aux États-Unis, lui aussi rappelle un élément central du dossier en disant « Mais j'aimerais bien que le président Biden ou le président Trump, qui étaient aux affaires respectivement, expliquent ce qui les a conduits à confiner, dès lors qu'on sait que ça ne servait à rien. C'est une erreur qui a coûté 16 trillions de dollars, c'est-à-dire 16 000 milliards de dollars. » Et en fait, il y a eu un transfert de richesses à hauteur de 4 000 milliards de dollars qui ont été soutirés à la classe moyenne dans son pays, les États-Unis uniquement, pour être donnés aux super riches. Et les confinements et ces mesures absurdes ont créé des milliardaires du jour au lendemain, comme Stéphane Bancel par exemple. Mais après, il faut se souvenir que Bernard Arnault, qui persécute Didier Raoult dans les colonnes de ses torchons, et qui est très ami avec Emmanuel Macron, s'est enrichi d'une manière scandaleuse au cours des 3 ans de crise. Il est devenu la première fortune au monde. Et donc, lui a tiré profit au maximum de ce qui s'est produit, mais qui est aussi passé par l'appauvrissement des Français. Et donc, peut-être pourrait-on lui demander de commencer par rendre l'argent. Alors évidemment, il n'a rien fait d'illégal, mais quand on s'enrichit de manière aussi éhontée, quand un pays en sang tout entier s'appauvrit, eh ben on ne tire pas sur ceux qui ont essayé d'éviter le désastre et de soigner les gens, mais manifestement, M. Arnault est lui-même dans cette mégalomanie paranoïaque. Et Jean-Baptiste Rivoire, qui connaît bien l'univers de la presse, décrit comment M. Arnault a des travers paranoïaques. Et donc, il faut bien comprendre que ces gens-là ont pillé les nations en comptant sur les stratégies politiques absurdes et destructrices des politiques. Alors évidemment, je ne vais pas redire une fois de plus l'essentiel. Hélène Stroll, qui est inspectrice générale émérite des affaires sociales, relève que rien ne peut être reproché à l'IHU par rapport aux soins des malades. La prise en charge et le soin ont correspondu à toutes les bonnes pratiques en la matière. L'IGAS a eu accès dans ses inspections à tous les documents relatant les événements indésirables, les plaintes des malades et bien sûr le consentement que le médecin demandait aux patients. Et il n'y a absolument rien. Donc vraiment, on est dans l'inversion accusatoire, c'est-à-dire le pervers accuse celui qui est innocent et qui au contraire a agi à partir de sa bonté et de son intégrité d'avoir commis ce que lui-même est en train de commettre. Et voilà. Alors, faut-il rappeler que les cas d'effets indésirables post-injection génique expérimentale explosent ? Il y en a eu pratiquement 200 000 cas qui ont été déclarés, dont 25% étaient graves. Alors qu'on sait que le taux de déclaration des effets indésirables pour les bénins est très faible, inférieur à 1%, et que ce taux monte à 5% pour les effets graves. Donc si on prend 50 000 effets graves, dont 5% seulement sont déclarés, vous multipliez ça par 20, et on voit l'étendue de l'atteinte sanitaire à la santé des gens et à l'intégrité physique des gens dans le cadre d'une expérimentation, rappelons-le une fois de plus, interdite par les conventions internationales. On sait aussi que tous les contempteurs de l'IHU se réclament de l'evidence-based medicine, mais là encore, c'est une foutaise pour quiconque connaît un petit peu la science. Mais rappelons aussi que, voyez, le gouvernement britannique, mais c'est vrai dans tous les pays, mais le gouvernement britannique a censuré Carl Hennigan, qui est directeur du Center for Evidence-Based Medicine, c'est-à-dire le cénacle qui supervise la correction de la méthodologie evidence-based, qui bien sûr a des avantages dans un grand nombre de cas, et même lui a été censuré. Donc vous voyez, on est vraiment dans un système mafieux, dans un système totalitaire. Et puis, à ce sujet, on peut repérer que les différentes personnalités qui se singularisent malheureusement dans cette affaire, comme le sénateur Bernard Jomier, Mathieu Molimard, une association fantôme présidée par une femme extrêmement douteuse, Victor Garcia, qui est ce gratte-papier inculte et malveillant de l'Express, Damien Barrault, qui est un espèce d'allumé, quelqu'un qui dit des monstruosités, et tous ces gens, effectivement, sont en réseau, et finalement, donne l'impression qu'il y a un rejet massif des procédures de l'IHU, alors qu'il s'agit d'un tout petit cénacle. Et donc François Crémieux, qui est ce fonctionnaire qui a été parachuté à Marseille comme directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, avec une feuille de route très claire d'éliminer Didier Raoult et de faire tout ce qu'il fallait pour le mettre sous pression, le menacer, enfin on est vraiment là encore dans des procédés mafieux, je n'ai pas d'autres expressions possibles, et il faut effectivement relever que le professeur Raoult leur fait peur. Ils ont trop de sang sur les mains, ils ont dit trop de mensonges, ils ont commis trop de manipulations, il y a eu trop de corruption. Et donc voilà, un observateur souligne que François Crémieux, le François Crémieux en question, est lui-même mis en examen pour avoir envoyé des mails avec de fausses informations sur l'IHU Méditerranée infection. Et puis alors, une des expertes de plateau, donc vous voyez que Bruce Toussaint, sur BFM, mais bon, BFM, c'est Patrick Drahi, c'est la CIA et le Mossad, Marc Fogiel, Marc-Olivier Fogiel, qui est très copain avec Brigitte Macron, donc vous voyez, on est encore dans... Eh ben, après avoir interviewé le professeur Raoult, a fait venir une soi-disant experte, qui est encore une médecin qui ne représente absolument rien, qui a pris la tête de cette soi-disant association des victimes d'un traitement qui soigne, donc déjà en soi, ça pose question, et dont il s'avère qu'elle a été exclue pendant 2 ans de l'université de Bretagne occidentale pour avoir fait une tentative de fraude à l'examen. Donc, de nouveau, vous voyez, on est dans un délire et dans une farce, à vrai dire, dans ce que Michel Maffezoli a appelé la théatrocratie, c'est-à-dire un monde qui n'est plus qu'un simulacre. C'est une espèce de... Vraiment, ça rappelle le Père Ubu, pour ceux qui connaissent un petit peu le théâtre. Alors Iris Aberkane remet un peu d'axiologie là-dedans, en relevant, si on suit le raisonnement et le concept de plainte potentielle, ça fait des millions de plaintes potentielles pour tous les patients qui ont reçu du remdesivir, ce médicament toxique promu par les pontes de la corruption systémique, le Rivotril qui a achevé des milliers de personnes sans leur laisser la moindre chance. Et puis bien sûr, des dizaines de millions de plaintes pour les inoculations si surestimées et qui étaient évidemment ni sûres ni efficaces. Donc rappelons le scandale du remdesivir à 1 milliard d'euros, un traitement qui n'a jamais marché, pour lequel il n'y a jamais eu d'études sérieuses, mais qui a toujours été préconisé par les soi-disant autorités de santé, ou plutôt autorités de fructification financière pour les pharmas sur la base d'opérations frauduleuses. Et puis, pour revenir à l'essentiel une fois de plus, je rappelle cet article du British Medical Journal, une des 3 principales revues médicales, paru en novembre 2020, et dont le titre... Vous voyez, donc c'est toujours intéressant d'avoir la description du problème et l'alerte en amont, et puis après de voir la catastrophe se produire intéressée, puis de dire, mais attendez, on avait toutes les informations. Donc le BMJ parlait la politisation, la corruption et la suppression de la science. En alertant, novembre 2020, la science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle. Dans quoi sommes-nous? Puis vous voyez, la politisation de la science. Quand un ministre de la Santé, qui est infiniment moins calé que les équipes de l'IHU, dit « c'est inadmissible de faire de la science comme ça », nous sommes dans une situation à la Lysenko, nous sommes dans une politisation de la science, nous sommes dans un modèle du monde soviétique et bureaucratique, Et donc le BMJ disait « Cette politisation de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et dictateurs de l'histoire et elle est malheureusement monnaie courante dans les démocraties ici et maintenant. » Le complexe médico-politique tend à supprimer la science pour des raisons d'intéressement financier et concluait l'article, à mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les vérités dérangeantes de la science sont supprimées et lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Donc vous voyez, voilà le diagnostic de la pathologie politico-sociétale, voilà, ne fait pas un petit. Et Amin Umlil résume ou conclut cela avec tout le bon sens, l'intégrité et la lucidité qui est la sienne, s'adressant au ministre, François Braun. Selon vous, si j'ai bien compris, un industriel peut distribuer une nouveauté médicamenteuse déguisée en innovation sans autorisation de mise sur le marché. Et ils veulent maintenant que ça soit le régime par défaut, que les pharma n'aient plus besoin de passer par l'autorisation d'AMM, pour tous les nouveaux produits. Donc, il faut mesurer, là encore, la gravité de la chose. Mais, demande Amin Umlil, un médecin ne peut pas prescrire un médicament ancien hors AMM. Vous voyez ? Quand je parle de délire, on est en plein délire. Alors, tournons-nous une fois de plus vers la philosophie et vers Alexis Haupt, qui, lui, effectivement, conclut avec sagacité qui est la sienne, la plus grande leçon de la période n'est pas que les puissants sont capables de toutes les folies, ça on le savait. Non, la plus grande leçon est que la masse est capable de gober des sottises plus grosses que la lune, et des sottises, c'est gentil, il faut parler de monstruosité ici. La soumission intellectuelle est un vrai fléau. Parce qu'évidemment qu'un certain nombre de personnes sont sous hypnose, un certain nombre de personnes participent activement à cette dérive épouvantable, mais tous les autres se taisent et restent quoi ? Par peur des conséquences. Alors évidemment, il y a eu tellement de lapidation sur la place publique que ça se laisse comprendre quand vous avez un leasing, le remboursement de la maison à payer, l'école privée des enfants, etc. Mais il y a un moment donné où la lâcheté, et j'ai tendance à considérer que la France, hélas, retombe dans ses travers vichistes, mais n'est plus acceptable. Alors tout ceci, demain je reviendrai sur l'ingénierie sociale et les techniques de manipulation, mais ça correspond à ce qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire toutes ces stratégies de propagande dont David Collomb en France est un très grand spécialiste. Il ne s'est pas du tout exprimé sur la dérive en cours, donc je pense que lui aussi couvre ses arrières. Mais vous voyez, il y a un certain nombre d'actions fondamentales à mettre en œuvre. La première est de discréditer l'adversaire. C'est ce qui se passe avec Didier Raoult. Nous sommes face à une tentative de destruction de réputation. Prétendre servir l'intérêt général. Mettre la science dans sa poche, on peut l'acheter, c'est pratique. Donner l'impression d'avoir l'opinion de son côté, hein, c'est vraiment ce que font les médias et les politiques. Faire diversion pour qu'on ne parle jamais du fond. Gagner les experts et décideurs à sa cause et influencer les journalistes. Et la conclusion, c'est que nous sommes littéralement dans cela aujourd'hui. Vous voyez, c'est notre société d'aujourd'hui. Propose Thomas Le Quertier, j'affirme que ce lapin est de couleur verte, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes le problème. Alors, Robert Kennedy, qui commande tout ça, je crois que lui aussi a vraiment réinjecte de toute sa force et sa conviction du bon sens et de la raison, en disant, au fond, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne font plus confiance à nos gouvernements aujourd'hui parce que nos gouvernements ne sont plus dignes de confiance. Et les médias et la presse ne sont plus dignes de confiance. Et le meilleur moyen d'arrêter cette division, c'est d'avoir un gouvernement qui donne les faits de manière honnête sur lesquels nous puissions nous appuyer et sur lesquels nous puissions nous mettre d'accord. Et donc, il faut absolument qu'un changement se produise. Et donc, si ce psychodrame autour de la publication de l'IHU Méditerranée Infection a autant d'importance, c'est que c'est un point nodal de ce combat pour résister au délire, à la corruption et à la violence totalitaire, et que si nous arrivons à vaincre les forces qui aujourd'hui mettent toute l'énergie du désespoir dans cette bataille, ça veut dire que très vite, les choses vont se déconstruire de l'autre côté.
Merci.